Alors, j'ai l'honneur, comme disaient les Latins, et la charge, honor onus, de présenter ma collègue et amie Bernadette Rigal-Sellar, ou plutôt de présenter son ouvrage qu'elle va elle-même décortiquer devant vous. Elle m'a demandé d'être son interlocuteur, mais je ne serai que le monsieur loyal de ce qui, j'espère, sera une conférence brillante. Alors, je voudrais simplement dire en deux mots tout l'intérêt du livre. D'abord dans son thème, les Mormons, qui nous interrogent tous depuis toujours. N'est-ce pas, qui n'a pas été interrogé par les Mormons bien élevés et qui les abordent dans la rue et qui sont une parfaite correction. Ensuite, un livre attendu parce qu'il fallait enfin dire des choses qui éclairent très largement ce qui n'est pas une secte, comme le dit très clairement Bernadette Rigal-Sellar, mais une religion. Une religion, religion qui, je l'avoue, pour un esprit latin comme le mien, est un peu curieuse, mais je me suis beaucoup ouvert grâce à cet ouvrage. Et l'ouvrage est extrêmement intéressant, en ce sens qu'il est puisé à des sources très sûres et a appuyé sur une réflexion complexe. L'intérêt de Bernadette Rigal-Sellar, c'est qu'elle est spécialiste des religions, mais en même temps spécialiste profonde de la civilisation des États-Unis. Et que cette situation de comparaison constante entre une communauté aussi importante que les Mormons et l'histoire américaine est fascinante. La lecture du livre est facile, c'est même didactique. Partie par partie, puis paragraphe par paragraphe, d'une plume facile, Bernadette Rigal-Sellar développe les principales questions qu'on peut se poser. Il n'y en a aucune à laquelle elle ne répond pas. À moins d'être un théologien mormon, ce qui n'était pas mon cas. Alors les Mormons, c'est à la fois une religion très liée à la Bible, mais en même temps qu'un rapport très curieux avec la Bible, une véritable épopée américaine, une église au contact étroit avec la franc-maçonnerie, c'est une des grandes découvertes, franc-maçonnerie anglo-saxonne, il faut le préciser, une société à la fois traditionnelle et extrêmement moderne, bien insérée dans les États-Unis. Et en même temps, c'est un des porte-drapeaux de l'âme américaine. Alors on est très surpris, avant de poser la première question, de constater par exemple, à propos des Mormons et de leur modernisme, que le prophète Smith a eu sa première vision vers 1823, si ma mémoire est bonne, et je vois à un moment dans le livre, ça m'a frappé, dès 1840-45, il y a déjà des bateaux mormons qui vont chercher des convertis. Et ça, c'est le mystère, et je te laisse la parole. Et je te pose une première question. Mon mystère à moi, c'est qu'est-ce qui fait le succès de cette religion que rien, effectivement, ne pouvait laisser penser. Alors, on va faire quelques thèmes, si tu veux bien. Et le premier thème, c'est tout simplement la singularité des croyances mormones. En quoi sont-elles singulières ? Et en particulier, j'avais pensé, bien sûr, je me référerai si tu veux au livre, mais tu le sais, il faut que les auditeurs le lisent, bien sûr, le prophétisme. Quelle est la place du prophétisme chez Smith et dans les Mormons ? Quelle est la place de Dieu ? J'ai bondi en lisant que pour Joseph Smith, excusez-moi de l'accent, hein, Dieu est un homme. Alors, Dieu est un homme, il le dit explicitement à un moment donné. En tout cas, il le dit page 161 du livre. Et que Jésus-Christ n'arrive qu'à la fin du livre de Mormon. Alors voilà ma première question, les singularités mormones dans la théologie. Puis nous verrons dans deux croyances importantes, le baptême des morts et la polygamie.
D'accord. Mais on commence par...
La prophétisme.
Alors, le prophétisme. Bon, alors d'abord, merci pour toutes ces gentilles paroles. Donc, j'explique que j'ai préféré faire venir un ami pour poser des questions, parce que je trouvais que c'était plus vivant que moi-même de vous faire une présentation sur le mormonisme pendant une heure. Ça endort les gens en général, tandis que comme ça, j'espère que ça sera un petit peu plus vivant. Alors, il y a énormément de choses dans ce qu'on m'a demandé. Je n'ai pas pris de notes, donc j'espère que je ne vais rien oublier. Alors, peut-être commencer par le prophétisme, effectivement. Donc, c'est le phénomène qui va toucher un individu et qui va recevoir ou dire qu'il reçoit, bien entendu, ça dépend si on fait partie de son groupe. Dans ce cas, on prendra ça pour une vérité. Si on ne fait pas partie du groupe, on dit que la personne a dit ceci, mais reçoit des révélations, reçoit des messages qu'il estime venir du divin, du transcendant, etc. Et il est bien évident que Joseph Smith se pose en tant que prophète, prophète de la jeune Amérique. La situation, et c'est vrai que j'ai vraiment voulu présenter le mormonisme comme bien sûr comme une religion, mais également comme un objet culturel, puisque l'intérêt avec les religions américaines, c'est qu'on peut voir le début, et parfois des fois même la fin, mais le pays étant suffisamment jeune, on arrive à avoir une idée des origines. Alors que quand on parle des religions comme le christianisme, l'hindouisme, etc., c'est impossible d'arriver à démêler la fondation. Donc, le pays est tout jeune, la nation américaine est toute fraîche, hein, elle date de 1776, et il y a aux États-Unis un énorme réveil religieux, comme il y en a régulièrement. On est en train de vivre la fin du quatrième réveil religieux. Tout le monde ici sait que les Américains sont très religieux, mais en fait, c'est un réveil, hein, qu'il y a depuis 30-40 ans et qui est en train maintenant de s'endormir. Normalement, ça dure 30 ans, celui-ci aura duré 60 ans. Donc, début du 19e siècle, on est dans un grand réveil religieux avec une quête d'identité nationale, puisqu'on a une jeune nation, mais qui finalement était, il y a peu, une colonie britannique. Et donc, comment se définir en tant que nouveau peuple? La religion contribue bien entendu à cette définition identitaire. Et il y a, dans cette période, 1800-1830, une foule incroyable de gens qui sont des prophètes, donc qui vont faire des révélations publiques, qui disent que Dieu leur a parlé. Alors, c'est en général encore le Dieu biblique. Il n'y a pas le pluralisme qu'on trouve de nos jours avec des origines hindoues, bouddhistes, musulmanes, etc. À l'époque, c'est encore complètement la Bible, mais chacun va l'interpréter à sa façon. La plupart des groupes de cette époque ont disparu, on peut dire tous ont disparu, sauf justement le mormonisme, parce qu'il a été très bien structuré, très rapidement. Et les religions ne peuvent survivre que si elles sont particulièrement bien structurées. Et ensuite, il y a quand même un autre phénomène qui se produit à ce moment-là et dont on voit de nos jours encore la trace, ce sont les Témoins de Jéhovah, dont le groupe se structure bien plus tard, hein, vers 1870, mais ce sont des gens qui descendent des Millerites, enfin des Millerites, qui sont nés dans ce grand réveil. Voilà. Alors, le prophétisme, eh bien, Joseph Smith déclare à un groupe d'amis qu'il a une révélation. Il a vu Dieu, il a vu Jésus, il a vu ensuite diverses personnes de l'Ancien Testament. Et surtout, un ange lui a révélé l'emplacement où se situaient des plaques. Alors, il y en a qui sont en Érin, il y en a qui sont en Nord, etc. Où était consignée la chronique de peuples très anciens. Mais l'ange est très prudent et lui dit « Tu es encore trop jeune, tu pourras aller voir qu'un petit peu plus tard. » Donc, c'est un petit peu plus tard, quand Joseph Smith est plus vieux, qu'il a l'autorisation d'aller creuser le sol et il trouve ses plaques. Et il va bien entendu expliquer qu'il faut les traduire. Elles sont rédigées dans des vieilles langues, sans doute de l'hébreu, de l'égyptien ancien. Donc ce sont des formes des hiéroglyphes. Mais tout a été prévu. À côté des plaques, il y a des espèces de pierres de cristal qui sont l'urim et le thurim, que l'on trouvait sur le pectoral des grands prêtres dans l'Antiquité. Et ces pierres vont l'aider à traduire, c'est ce qu'il va dire, hein, ces hiéroglyphes. Donc il y a un processus qui va durer pendant plusieurs mois où, aidé par un ami qui va écrire ce qu'il dit, lui traduit ce qu'il a écrit sur ces plaques. Quand il a fini la traduction de ces plaques, il publie cela, parce qu'il a déjà converti quelqu'un à ses idées. Cette personne va donner de l'argent pour publier le livre. Et en 1830, il publie donc le Livre de Mormon, qui est une révélation. Il explique que c'est une révélation. Alors, qui bien entendu à la fois une révélation qu'il a entendue, mais surtout, c'est la chronique d'anciens peuples qui ont quitté la Palestine environ 6 siècles avant Jésus-Christ, et qui ont traversé les mers et qui ont ensuite fondé une nouvelle, un nouveau peuple qui va être le peuple ancêtre des Indiens. Et lorsqu'il dit ça, le livre à l'époque va être donc lu par un certain nombre de gens. Alors il ne faut pas non plus penser que tout le monde le lit, parce que beaucoup de gens ne pouvaient pas lire, mais on raconte beaucoup. Et comme c'est une période de grande effervescence religieuse, où les gens en plus, c'est l'Amérique du début, mais même les Américains de nos jours, hein, ils aiment beaucoup parler de tout un tas de choses, ils sont très curieux. Le fait d'avoir un prophète qui raconte ces choses-là, ça ne les choque pas. Vous pouvez aller n'importe où aux États-Unis, vous allez avoir des prophètes dans les rues, hein, vous allez à New York, n'importe où, vous allez avoir des gens qui vont vous raconter plein de choses. Il y a des gens qui les écoutent. Chez nous, en général, on ne les écoute pas trop, mais on les écoute. Donc, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de particulier à Joseph Smith. C'est vraiment un contexte, et donc on l'écoute. Et d'ailleurs, les premiers convertis diront qu'ils ont lu le livre ou qu'on leur a raconté ce que disait le livre, et ça leur a énormément plu. Donc, ils vont... c'est pareil aussi, c'est très américain. Ça, vous entendez quelqu'un, ça vous plaît, vous allez le suivre. Bon, 3 ans après, vous allez peut-être changer de religion. De nos jours, et ça je le mets quelque part, j'ai les statistiques, on estime qu'il y a plus de 40% de la population américaine qui pratique une religion dans laquelle elle n'a pas été élevée. C'est-à-dire que les gens changent de religion sans aucun problème, on peut appartenir à 3 ou 4 religions. Moi j'ai des amis qui appartiennent à plein de religions, ils peuvent être mormons, baptistes, méthodistes, etc. Selon le jour, l'envie, on va aller à tel endroit, etc. C'est radicalement différent d'une situation à la française où soit on est majoritairement catholique, culturel, donc on pratique pas grand-chose. Et puis bon, on pourrait peut-être se convertir à quelque chose, mais c'est quand même assez rare. Si on quitte, on quitte pour ne rien faire. Et il y a après un petit pourcentage de Français qui vont avoir d'autres religions. Mais c'est quand même une situation d'énorme monopole, même si c'est un monopole un peu fatigué. Là-bas, non, c'est vraiment sans arrêt, c'est très actif. Donc, il publie ça, le livre plaît énormément aux gens, mais le livre n'est qu'une partie, en fait, de l'expérience mormone. C'est véritablement tout un... Comment on pourrait appeler ça ? C'est un programme total de vie communautaire. Donc, ce qu'il veut, lui, c'est fonder la Nouvelle Jérusalem sur cette nouvelle terre. Le Livre de Mormon explique très clairement que cette nouvelle terre, les États-Unis, enfin l'Amérique... Ça s'appelle la terre de promission, puisque la dernière personne à avoir rédigé sur les plaques, c'est Mormon, d'où le livre de Mormon, mais qui est censé avoir écrit vers le 4e siècle de notre ère. Donc évidemment, on n'appelait pas l'Amérique l'Amérique. Mais donc on l'appelle la terre de promission, et puis très vite, dans les textes publiés par l'Église, de Jésus-Christ, de Saint des derniers jours, c'est le terme officiel. Mormon, au départ, c'était une insulte, mais maintenant, bon, c'est tout à fait autorisé. Eh bien, on va dire l'Amérique, hein. On ne dit plus la terre de promission, on dit l'Amérique. Donc, le livre de Mormon consacre l'Amérique comme terre promise. Ça, c'est évidemment idéal pour un peuple qui est fait... qui provient exclusivement de l'immigration, même les Indiens sont venus il y a longtemps. Donc, si vous voulez, c'est un message qui est extraordinaire, puisque vous avez un livre que Dieu a révélé, qui a été écrit par des prophètes autrefois, et qui dit explicitement, ceci est la terre de Canaan, c'est la terre promise que je vous donne. Donc, si vous voulez, ça plaît aux gens. Les gens de l'époque, en plus, on parle de crise économique de nos jours, mais bon, elle est bien amoindrie par le fait qu'il y a des aides, etc. À l'époque, ce sont des gens qui crèvent de faim, qui ont traversé l'Atlantique, qui crevaient encore plus de faim chez eux, qui sont des gens très simples, hein, c'est quand même une classe très... Enfin, c'est vraiment des ouvriers, des semi-esclaves, hein, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, quand on leur dit, mais vous savez, vous êtes le peuple élu et vous êtes sur la terre de Dieu, ça plaît aux gens. Et puis, Joseph Smith va organiser. Donc, ce sont des gens très travailleurs. Donc, il organise une agriculture excessivement efficace. Il suit le modèle fourriériste, donc des communautés agraires utopiques. Donc, tout est planifié. Hein, si vous êtes un petit peu familier avec les utopistes du 19e siècle, tout est régi, hein, dans cette vie-là. Ils trouvent des terres qui sont très bonnes. Comme ils arrivent souvent dans plusieurs communautés, d'abord dans l'Est, dans des communautés qui ne sont pas développées encore, ils prennent les meilleures terres. En général, ils ont l'œil pour repérer là où il y aura de l'eau, etc., etc. Ils s'installent, ils travaillent, ils sont bosseurs, ils restent entre eux au début. Et évidemment, ils vont provoquer des jalousies, puisqu'on n'aime pas trop les gens qui se prennent pour... Enfin, on peut aimer les prophètes, mais si ce n'est pas le nôtre, on n'aime pas ce prophète-là. Et surtout, si on voit qu'ils arrivent très vite à avoir des belles fermes, on n'aime pas trop. Donc, on essaye de les faire déplacer. Et c'est vrai qu'ils vont être obligés de partir beaucoup dans l'Est, jusqu'à ce que le prophète soit tué en 1944 dans l'Illinois. Alors, il est tué parce que c'est le début de la polygamie, mais qui n'est pas officiellement révélé, mais enfin qui est pratiqué. Donc, il y a pas mal de critiques. Il y a notamment un journal dans le coin qui s'espace donc dans l'Illinois, dans une ville qui s'appelle Nauvoo, qui s'appelait Commerce, mais que les gens ensuite ont baptisé, que les Mormons ont baptisé Nauvoo, N-A-U-V-O-O, parce que ça fait un petit peu plus Ancien Testament. Mais c'est une ville très prospère. C'est la deuxième ville de l'Illinois après Chicago. Donc c'est une ville qui marche vraiment très très bien. Il y a une petite université, il y a de l'artisanat, etc. Donc c'est quelque chose qui est jalousé. Mais le gouverneur, les politiciens aiment beaucoup les Mormons parce que c'est un bloc aussi. Donc ils ont une certaine, vraiment, ils ont un certain pouvoir. Ils en jouissent, mais il y a ce problème de la polygamie. Et comme ils sont jalousés par d'autres personnes, on va saisir le problème de la polygamie pour les dénoncer. Et Joseph Smith, qui a une milice, mais encore une fois, ce n'est pas original. On est dans l'Ouest américain. Les gens, ils avaient des milices, hein, parce qu'il n'y avait pas assez d'armée, il n'y avait pas assez de police, etc. Donc, on faisait sa police soi-même. Hein. Donc, d'ailleurs, les Américains, vous savez bien, sont toujours armés, même en 2012. Hein. Donc, le journal va publier des articles dénonçant le harem, la prostitution qui peut y avoir chez les Mormons. Et évidemment, Joseph Smith n'aime pas trop ça. Donc, il va, avec son équipe, détruire les presses de l'imprimeur et du journal. Alors, évidemment, l'autre porte plainte. Joseph Smith, qui était maire de la ville, déclare l'état d'urgence. Et puis, bon, après, il y a tout un... Ça se passe comme dans un western, c'est-à-dire qu'en fait, les gens attaquent. Le gouverneur se lave les mains, ne veut rien faire. Joseph Smith s'enfuit avec un de ses frères. Sa famille va plus ou moins le chercher en disant « Vous êtes lâche parce que si vous n'êtes pas pris, c'est nous qui allons être punis. » Donc, il revient. Évidemment, il se fait arrêter. On le met dans une prison qui n'a pas de barreaux. Et puis, encore une fois, c'est le typique de l'Ouest. La populace arrive pour le lyncher. Tout le monde a des armes, on lui en donne à lui aussi. Donc lui-même est dans la prison, là les gens attaquent. Il tire lui aussi, hein. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un Christ non plus, comme on a des fois entendu, puisque bon, il n'a pas remis l'épée au fourreau. Mais il meurt, et évidemment il meurt en martyr. Et ça c'est... Je dois dire que c'est une très bonne recette pour commencer une religion, puisque le martyr est très porteur, si je peux dire, sans risquer d'aller en enfer. Mais ça a deux effets, le martyr. C'est-à-dire que dans un premier temps, la foule est paniquée, hein, puisqu'elle n'a plus de chef. Alors, il y a des gens qui vont partir parce qu'ils se disent « Bon, qu'est-ce qui va se passer ? On va partir. » Mais c'est également, dans l'autre sens, excessivement un rassembleur, puisqu'évidemment, dès que le chef a été tué, ça veut dire qu'il était dans la vérité et que les autres sont des méchants, etc., etc. Donc, au contraire, ça a soudé le groupe. Et puis, ensuite, il y a un de ses proches...
Oui, je voudrais intervenir.
Voilà.
Nous restons sur le thème.
Voilà, madame le professeur.
Comment le prophétisme, justement, fonctionne-t-il aujourd'hui?
Alors, il fonctionne...
Voilà, il a Brigham Young, j'ai lu, hein, bien entendu. Et comment le prophétisme, puisque c'était notre thème, fonctionne-t-il en particulier au niveau de la vérité théologique? Parce que la vie de Smith, d'abord, moi je me demande, mais ça, c'est, la salle nous le dira peut-être, s'il y a des mormons, comment on peut adhérer à son témoignage? Il est derrière un rideau, il faut un décodeur. Bon, je reconnais que pour la raison... C'est extrêmement difficile. Alors, comment le prophétisme fonctionne-t-il aujourd'hui dans l'Église mormone? Est-ce que c'est possible? C'est une question qui est intéressante.
Oui, oui. Alors, le prophétisme, donc Joseph Smith, vous avez compris, est un prophète, mais ce qu'il va dire, c'est que la révélation, c'est-à-dire en fait le prophétisme, est complètement ouvert. Alors que dans le christianisme, disons, canonique, traditionnel, la prophétie s'arrête avec le dernier livre de l'Apocalypse, hein, qui est le livre des révélations, puis c'est fini. Alors... Le principe, évidemment, des religions, c'est de tirer l'échelle à soi une fois qu'on a créé sa propre religion pour que personne d'autre vienne marcher sur les plates-bandes. Donc, les Américains disent, mais ça, c'est l'histoire du vieux monde. Nous, nous sommes le nouveau monde. La prophétie est ouverte. Donc, Joseph Smith est prophète, mais il va, de façon très intelligente, instaurer le titre de prophète. Donc, le chef de l'Église est prophète.
C'est ça qui est curieux.
Alors, lui, c'est un prophète innovant, hein, c'est le prophète novateur. Mais ensuite, tous les successeurs directs de l'Église, enfin l'équivalent du pape, hein, s'appelle prophète, révélateur, voyant et président. Dans l'ordre, c'est prophète, président, révélateur et voyant. Celui qui voit, sire. Donc, ils sont tous comme ça. Et la révélation est complètement ouverte. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a eu besoin... Dans l'Église catholique, on fait des conciles, et bien eux, ils ont une révélation. Quand il y a besoin de s'adapter à des conséquences, disons, à une conjoncture différente... Une révélation arrive. Alors, si on est mormon, on pense que c'est vraiment Dieu qui parle et qui dit, bon, il faut faire ceci, cela, par exemple, quand on va interdire la polygamie, etc. Mais on peut estimer que la révélation arrive à un bon moment pour justement faire une adaptation. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'à partir du moment où vous dites la prophétie est ouverte, tout le monde est prophète, eh bien, il n'y a pas que Joseph Smith qui va pouvoir être reconnu comme prophète. Donc, lui, il a bien dit à un moment donné, mais il n'y a que moi qui peux être prophète. Mais les autres ont dit, ben non, vous avez dit que c'était ouvert, voilà. Donc, dès le début, il y a beaucoup de prophètes concurrents qui vont quitter, hein, qui vont monter des groupes différents qui s'appellent plus ou moins Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais avec des variantes. Et on ne va donc, il y a chaque fois il y a des conversions, de nouveaux prophètes qui embarquent les croyants, hein, donc ils font du vol de captation de clientèle. Et donc, ce qui va sauver en fait le groupe, et qui va faire qu'il y a maintenant 14 millions de mormons dans le monde et 6 millions aux États-Unis environ, c'est que tout de suite, Joseph Smith a compris, c'est quelqu'un d'absolument brillantissime, il fallait recruter à l'extérieur très vite. Donc, c'est comme ça qu'ils envoient des bateaux, des missionnaires dans le monde entier. Mais la prophétie est toujours ouverte. Elle fonctionne assez peu, hein. Enfin, je parle sous contrôle, mais il n'y a plus trop de révélations, on n'est plus dans la période formative. Hein. Oui. La dernière doit remonter à l'autorisation pour les Noirs d'avoir la prêtrise, je crois, la révélation. Il n'y a pas des révélations tous les matins. De l'époque fondatrice, il y avait des révélations vraiment très, très souvent. Hein. Maintenant, il n'y en a plus trop, quoi.
Oui, pardon, c'était parce que c'était cette notion de prophétisme. Il y a un prophète actuellement qui peut...
Ben c'est le président.
Qui peut prophétiser.
Oui, oui, il peut prophétiser. Mais il est très vieux, ils sont très, très vieux. Hein, alors. Joseph Smith a eu l'intérêt de mourir jeune, donc on a une image de lui, de quelqu'un de très jeune et dynamique. Mais maintenant, c'est plutôt une espèce de gérontocratie, puisqu'en fait, c'est toujours le plus vieux qui devient président. Et ils vivent très longtemps, parce que comme ils ont une vie très saine, la longévité des présidents, enfin du quorum des 12 et tout ça, est excessive. Enfin, oui. Ils vont tous au-delà de 90 ans. Et donc, les prophètes présidents sont très, très vieux. Enfin, l'actuel Manson, il a quoi, 80 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent prophétiser. Mais, je veux dire, c'est plus tellement l'image du prophète qu'on a, du jeune Joseph Smith, très enthousiaste, etc. Mais ils sont toujours prophètes.
Oui. Alors, à propos de cette singularité, hein, puisque on était d'accord sur ce thème, alors, la théologie mormone, Dieu est un homme, dit Smith à un moment donné, Jésus-Christ arrive vraiment en fin de livre de Mormon, hein, c'est ce qui est dit dans le livre Bernadette, qui évidemment a lu le livre de Mormon. L'Ancien Testament est omniprésent. Mm-hmm. Si on a le temps, on parlera bien sûr des Juifs. Mm-hmm. Hein, c'est important. Alors, quelle est cette théologie? Est-ce que les Mormons sont chrétiens? C'est une question importante parce que Dieu est un homme, c'est à se faire couper la tête. Dans certains pays monothéistes, hein, ce genre de phrase, Dieu est donc inaccessible pour la plupart des monothéistes. Et là, il est un homme et Jésus apparaît au départ comme personnage secondaire et aujourd'hui il est essentiel puisque c'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors, quelle est la place du christianisme en tant que Jésus, que Messie dans le mormonisme?
Alors ça, c'est une question qui, évidemment, est essentielle parce que, justement, les anti-mormons aux États-Unis ont toujours dit que ce n'était pas un culte mormon. Pardon, que ce n'était pas un culte chrétien. Donc, ils ne sont pas chrétiens. Et donc, les mormons se défendent depuis le début en disant qu'ils sont chrétiens. Mais c'est un christianisme très différent des christianismes, catholicisme et protestantisme classique. Enfin, classique, traditionnel. Donc, mais ils ont quand même la Bible. La Bible est essentielle. Donc, à partir du moment où ils ont la Bible, Ancien, Nouveau Testament, ils sont dans la tradition biblique qui réinterprète différemment. Le livre de Mormon, effectivement, à Jésus qui arrive, mais Jésus arrive puisque le livre de Mormon, c'est la chronique depuis 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à Jésus-Christ, qui, après avoir fait son ministère en Palestine, arrive faire le même ministère en Amérique et puis repart. Donc là, c'est vrai que c'est très court, hein, la partie de Jésus en Amérique est très très courte, c'est, je sais plus, 70 pages ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu, on reste un peu sur sa fin, mais bon, on a l'évangile et la Bible déjà ailleurs, donc il n'y a peut-être pas besoin de recommencer comme ça. Mais eux se considèrent comme chrétiens, mais c'est vrai que c'est un christianisme qui n'a pas grand-chose à voir avec les autres. Alors, le Dieu est un homme, ça vient certainement du fait que les premiers mormons, les premiers théologiens, étaient des gens excessivement pragmatiques. Et pour eux, l'idée de... Donc, je l'explique, hein, parce que les théologiens du début expliquent qu'en fait, 2 et 2 font 4. Et si on parle de la Trinité, ben, c'est 3 qui font 1, 1 qui fait 3, c'est pas logique, on ne comprend rien à tout ça. Par contre, si je vous dis Dieu est un homme, eh bien, vous arrivez à comprendre. Et ensuite, il n'y a pas de création ex nihilo, c'est-à-dire que la genèse des Mormons, il n'y a absolument pas une espèce de néant, et puis le chaos, et puis tout d'un coup, quelque chose. Ça, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas possible. La matière existe, donc la matière est préexistante dans le mormonisme, comme d'ailleurs dans d'autres religions, hein. La genèse biblique n'est pas la seule interprétation des origines de l'humanité que nous ayons dans les religions. Donc la matière existe déjà et Dieu est un homme. Alors on ne sait pas trop d'où il vient, j'avoue que je n'ai pas encore trop compris d'où il venait, il est là en tout cas, et il organise la matière. Donc en fait Dieu est un organisateur, mais c'est un homme. Et c'est un homme qui va... se surpasser, qui va répondre à tout un tas de règles qu'il se fixe lui-même, puisqu'on est dans les premiers temps, et qui va finir par se diviniser. Et donc, dans le mormonisme, il y a une phrase qui résume bien tout ça, qui a été prononcée par un apôtre, hein, au fin 19e, qui est « Ce que l'homme est, Dieu l'était, ce que Dieu est, l'homme sera. » C'est-à-dire que chaque homme a la possibilité de se déifier, exactement comme cet homme, qui était un homme tout simple, a réussi à se diviniser. Donc effectivement, dans le mormonisme des origines, alors maintenant l'Église ne parle pas trop de ça, sauf si on pose des questions à certaines personnes, parce que justement, ils ont tellement peur qu'on les accuse de pas être chrétiens qu'ils gomment pas mal de choses. Donc quand même, moi j'ai parlé à des missionnaires, j'ai fait des enquêtes, on m'a dit oh, mais c'est pas nous ça. Hein. Je dis si, c'est vous c'est votre religion qui dit ça. Non, mais eux-mêmes n'étaient pas tellement au courant. Donc il faut attendre un petit peu certaines initiations pour parler de ça. Mais il y avait également une pluralité de dieux. Il y avait plusieurs hommes, plusieurs dieux, etc. Donc ça, on n'en parle plus du tout. On ne dit plus les dieux, on dit toujours Dieu le Père. Mais c'est quelque chose qui vient de cette espèce de bon sens. Comment parler d'un esprit qui est tout puissant, et si on est fait à son image, c'est surtout le problème, on est fait à son image, ça c'est dit, hein, nous sommes créés à son image. Si on est créé à son image, pourquoi est-ce qu'on a un corps? Donc si on est à son image, c'est que lui a un corps. On peut pas créer quelque chose de fait de corps et de chair et d'os, etc., à l'image d'un esprit. C'est pas logique. Donc pour eux, il y a une logique interne qui évidemment est très qui est finalement beaucoup plus simple à comprendre qu'un dieu qui serait un pur esprit, etc., et dont on serait censé être l'image, hein. Donc il y a une logique dans tout ça. Alors Jésus lui-même, il est fils, mais en même temps, c'est un fils qui a été pas du tout, si vous voulez, conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Si vous prenez une Vierge du Saint-Esprit, ça fait pas un humain. Donc, Dieu a littéralement eu des relations sexuelles. C'est écrit, hein, j'invente rien. Je n'ai pris que des sources premières. Hein. Dieu, effectivement, a couché avec la Vierge Marie. Évidemment, c'est un peu trivial de dire ça comme ça. Mais c'est dit, hein, il a véritablement eu des relations sexuelles avec la Vierge Marie. Comment voulez-vous, et alors ça, il faut entendre les gens dans les pauvres, moi je les imagine, mais comment voulez-vous que ce soit le Saint-Esprit qui fasse ça? Et d'ailleurs, il y a celui qui dit ça, je crois que c'est Parley Pratt, c'est un de mes préférés, qui dit, mais écoutez à ces missionnaires, faites attention, ne touchez surtout pas trop les femmes, ne leur insufflez pas le Saint-Esprit, parce que vous savez pas, vous allez avoir plein de problèmes de paternité ensuite. Donc il le dit ça, donc c'est très amusant, mais ça a une logique, moi j'avoue que je trouve ça très logique, et c'est très cohérent, si vous voulez, hein. Voilà, il n'y a pas de création ex nihilo. On est fait à l'image de Dieu, donc nous-mêmes, nous allons pouvoir nous diviniser comme Dieu s'est divinisé. Et Jésus, il est le fils charnel de quelqu'un qui n'est pas vierge, de Marie et de Dieu. Et il peut avoir des frères et tout ça. Donc après, il y a eu, mais c'est une interprétation qui venait de la gnose et qui a été rejetée par l'Église de façon très catégorique récemment, parce qu'il y avait l'histoire que Adam était aussi le frère de Jésus. Enfin, c'est un peu compliqué.
Ce qui est frappant, ça, dans les propos, c'est le modernisme, le réalisme et le modernisme, c'est-à-dire la matière. Lavoisier est cité même dans
l'ouvrage. C'est moi qui le cite, hein, oui, c'est moi ça. C'est pas eux, mais c'est vraiment cette idée-là. Hein,
ce sont vraiment des esprits positifs et scientifiques.
Très, très.
Et derrière ça, il y a l'ange qui est derrière le voile. Moi, c'est ce qui était tout à fait surprenant. Alors, autre question pour rester un interrogateur, quoique les réponses soient passionnantes.
L'avocat du diable.
Ah non, je ne me permettrai pas. Non. La femme. justement.
La femme.
Oui, la femme, la polygamie.
Page 180.
Alors là, j'ai noté la page parce que elle vaut son pesant de poivre. Page 199, où il est dit que la polygamie s'est trouvée vantée par des féministes militantes, vraiment les États-Unis, au moins dans les années 80. En tant que système idéal d'entraide entre femmes, offrant ce lien de sororité, sisterhood, cher au mouvement de lutte contre le machisme. Les femmes partagent leur travail, leurs soucis, et elles n'ont pas à supporter leur mari aussi souvent que dans une relation monogame. Alors, est-ce que finalement la sagesse viendrait du mormonisme pour les femmes et quid de la polygamie?
Alors, c'est un passage où je me suis bien amusée à écrire.
C'est du Bernadette Rigal, c'est là.
Oui, mais pareil, là, c'est parce que dans les années 80, il y avait plein d'articles de féministes qui, justement, estimaient que le modèle idéal d'entraide entre les femmes, c'était la polygamie chez les mormons. Donc, moi, j'avoue que ça m'avait un petit peu interloquée. Donc, la polygamie, pareil, vient d'une nécessité théologique. Je ne sais pas si c'est logique ou pas, mais ça vient d'une croyance qui avait, en tout cas dans le mormonisme des origines, mais je crois que ça y est encore, hein, et c'est une pensée qui vient également d'Origène. Donc ça, alors je ne sais pas comment ça a transité, mais en tout cas on le trouve chez Origène, c'est la conviction que nous vivons en tant qu'esprit dans l'éther avant d'être incarnés sur terre. Donc c'est une explication en fait, de notre nécessité d'incarnation dans un corps. Il y a des esprits qui habitent dans l'éther, des millions d'esprits, mais pour accéder à Dieu, ils doivent nécessairement passer par une incarnation et donc vivre le péché et vivre la rédemption par le Christ. Donc ça, c'est Origène. Et les Mormons réutilisent la même chose. Et donc, alors, je suppose que dans la polygamie, il n'y a pas simplement l'idée de faire incarner ces âmes-là, mais la justification théologique est que il faut faire incarner toutes ces âmes le plus vite possible pour qu'une fois qu'elles seront toutes incarnées, le Christ puisse revenir. Donc pour provoquer la fin des temps. L'Église s'appelle l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc on est dans les derniers temps, mais il faut accélérer le retour du Christ. Donc c'est une Église millénariste également, hein. Donc j'ai des étudiants ici qui m'ont entendu parler de ça cet après-midi. Mais c'est l'idée qu'il faut que le Christ revienne le plus vite possible pour qu'ensuite on puisse instaurer, d'abord qu'il y ait la résurrection, etc., etc. Donc l'homme qui va pouvoir faire incarner le plus grand nombre d'âmes possible aura le plus de chances de pouvoir se diviniser. La divinisation est très difficile quand même pour les femmes. Hein. C'est une église encore un peu de type église catholique, c'est-à-dire que les femmes ont un certain pouvoir, mais quand même, c'est surtout les hommes. Donc, un homme en épousant plusieurs femmes va pouvoir faire s'incarner jusqu'à, ça dépend combien de femmes il va avoir, hein. Ils n'en ont pas énormément en général, mais 5-6, il va quand même pouvoir avoir au moins 50-60 enfants. Et donc, il va pouvoir faire s'incarner énormément d'âmes. Donc, sa famille, à lui, va pouvoir grandir. Et plus la famille est grande, plus la divinisation est possible. Mais ensuite, ça c'est le côté, c'est l'interprétation, disons, c'est la justification théologique. Après, bien entendu, il y a la conjoncture. La conjoncture, c'est, encore une fois, un pays en train de se créer. On a besoin de bras. Donc, c'est quand même très intelligent, je trouve, d'avoir des pionniers, de faire venir plein de femmes. Et en plus, il y a plein de femmes qui existent, qui sont là, qui arrivent, hein, des immigrantes. Pas toutes forcément de bonne vertu. Hein, c'est les débuts de l'Amérique. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Elles sont toutes seules. Elles n'ont pas forcément de mari. Donc, eh bien, il y a un mari, il va en prendre plusieurs. Donc, c'est acte charitable. Et puis, les femmes vont évidemment travailler énormément. Elles vont faire c'était des travailleuses, hein, donc elles vont travailler à la ferme, etc., etc. Après, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant aussi, c'est qu'elles vont voter. Et l'Utah, alors c'était pas un État, mais c'était un territoire, va accorder le droit de femme. Je crois que c'est le premier avec le Wyoming à accorder le droit de vote aux femmes. Donc très tôt, hein, vers, je sais plus les dates, vers 1860, voilà. Mais c'est très, très tôt. C'est la région d'Occident qui accorde le droit de vote aux femmes le plus tôt. Alors, donc les Mormons disent, vous avez vu, nous, on a vraiment accordé le droit de vote aux femmes très tôt. Mais oui, évidemment, mais dans un premier temps, ça avait été suggéré par des anti-Mormons qui ont dit, si leurs femmes peuvent voter, elles vont voter contre les maris, contre les patriarches, contre les despotes. En fait, pas du tout, elles ont voté comme le mari a demandé de le faire. Donc après, l'État, Washington a supprimé le droit de vote des femmes, etc. Mais disons qu'il y avait plein d'avantages à tout ça. Et ça a construit, si vous voulez, une communauté rapidement. Hein. Les femmes travaillaient beaucoup. Si, alors, Après, l'histoire des féministes, ça, c'est effectivement dans les années, moi, quand j'étais aux États-Unis, dans les années 70-80, j'ai vu passer des textes des féministes disant, c'est très bien, puisqu'en fait, la femme, elle voit le mari associé à 10 femmes. Bon, ben, à supposer que le mari veuille accomplir le devoir conjugal tous les soirs, ça fait quand même qu'une fois sur 10. Donc, finalement, c'est tout bénéfice pour les femmes. Elles ne voient pas le mari tout le temps. En plus, elles s'entraident pour les enfants. Alors moi, il y a eu des petits films géniaux que je montrais à mes étudiants. C'était en général assez révulsé, d'ailleurs, surtout les filles. Mais il y a eu sur 60 minutes, je ne sais plus comment ça s'appelait cette émission, il y a eu un petit film sur des polygames heureux, des femmes... Ça s'appelle des femmes plurielles qui, alors il y en a beaucoup, c'est souvent des sœurs qui sont épousées. Elles adoraient ça. Et alors, elles avaient, une s'occupait que du linge. Donc, vous aviez le linge pour 50 gosses. Vous aviez des piles. Elles savaient exactement à qui appartenait ceci, cela. L'autre s'occupait de l'économie. Donc, mais c'est très intéressant parce que c'était les femmes de Tom Green qui, comme un idiot, a révélé à la télévision britannique et à 60 minutes, je crois que c'était la chaîne la M6, il a révélé comment il faisait. Donc, il est épousés, parce qu'il y en a beaucoup de polygames encore, mais ils ne sont pas reconnus par l'Église. L'Église officielle a complètement abandonné la polygamie. Mais il y a plein de groupes polygames. Donc, on épouse une femme, on lui fait 3-4 enfants, on divorce, et aux États-Unis, malgré ce que peuvent penser les gens, il y a des allocations familiales. Donc, la femme va toucher les allocations familiales, on reste avec elle, on en épouse une autre, on lui fait 3-4 gosses, on divorce, etc. Donc, on peut aller jusqu'à pas mal, hein, comme ça. Et elles ont de l'argent, donc il y a beaucoup d'argent qui va rentrer dans la famille, évidemment, avec toutes ces allocations familiales. Et donc, Tom Green a expliqué devant les caméras, moi j'ai le film, il explique comment il fait. Donc, on l'a coincé pour ça, non pas parce qu'il était polygame, mais parce qu'il avait trompé, il avait trompé l'État. Parce qu'en fait, la polygamie est plus ou moins tolérée aux États-Unis, c'est religieux, et puis bon, la plupart des magistrats ont une famille polygame autrefois, donc on ne va pas mettre ses cousins en prison. Mais là, il a vraiment arnaqué l'État, et en plus, il l'a dit devant les télévisions étrangères. Donc on l'a mis en prison, Tom Green. Il est sorti très vite, hein, il a fait, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, il est sorti maintenant, il est revenu avec ses femmes. Alors après, ça, c'est de la polygamie sympathique, si je peux dire, mais après, il y a des jeunes femmes qui sont épousées à 13, 14 ans, même si c'est interdit. Il y a beaucoup d'inceste. Là, on pourra parler du sang, justement. Mais ça, c'est très désagréable. Et les mormons sont très... Enfin, détestent ces groupes-là. Il y en a un qui s'appelle Jeff Warren, qui est en prison pour, je ne sais plus, 150 ans maintenant. Mais qui a fait ça, qui a épousé des gamines. Vraiment, ça, c'est tout à fait horrible. Mais beaucoup de polygames sont que des adultes consentants. Et ils font ça pour des raisons religieuses. J'ai rencontré une veuve plurielle qui... c'est le terme. Dont le mari était le grand défenseur de la polygamie et qui a écrit plein de livres. Et elle était mariée de façon tout à fait normale avec un mormon, mais qui était un mormon de l'église majoritaire, donc qui n'était pas du tout polygame. Elle a divorcé pour épouser ce polygame. Elle nous a reçus dans sa maison à Salt Lake, parce qu'en fait, moi je ne savais pas, mais ils habitent vraiment partout à Salt Lake. Et personne ne peut savoir qu'elle est polygame, parce qu'elle a sa maison, le mari venait de temps en temps, puisqu'il devait... Alors j'ai demandé combien de femmes il avait, elle m'a dit ça, je ne le dis jamais, mais je suppose qu'il devait faire la tournée des maisons régulièrement. Et bon, donc les gens ne pouvaient pas savoir qu'elle est polygame, hein, quand moi je l'ai chez elle. Mon mari a trouvé que cette polygame était fort sympathique. Et donc c'est tout à fait, c'est des gens tout à fait normaux. Et elle m'a dit que justement, eux rejetaient énormément ces gens qui épousaient des gamines, quoi. Voilà. Donc il y en a pas mal, hein, encore comme ça. Mais l'Église ne veut pas en entendre parler, hein, l'Église officielle. Voilà.
Nous demanderons à M. Rigal, parce qu'il entend par sympathie.
Ah, mais il était prêt à se convertir. Bien. Hein.
Je voulais gommer, mais là... Bien. Oui, de toute façon, les explications sont très claires dans l'ouvrage. Il y a des raisons. Alors, pour terminer sur ces singularités... Puis passons à notre thème, oui, on a le temps. Le problème, évidemment, que tout le monde attend et qui est le plus émouvant peut-être chez les mormons, non pas à cause des archives, moi je suis historien, mais enfin, les archives mormones sont capitales, mais par cette interprétation de Saint Paul du baptême pour les morts, qui est effectivement d'un grand mysticisme. C'est la seule fois, je dis la vérité, je m'excuse s'il y a des mormons, c'est la seule fois où le mormonisme m'émeut beaucoup. Dans l'exhumation de cette phrase de saint Paul.
Et que feraient les morts
sinon... Et que fera-t-on du baptême? Et qu'est-ce que le baptême pour les morts?
Alors ça, c'est pareil, il y a une logique, c'est que si Enfin, la logique, c'est que le mormonisme se déclare le véritable christianisme restauré. Toutes les églises qui existent, ce sont des églises en fait qui ont déformé le message du Christ, qui sont corrompues, etc. Donc, ça, c'est un petit peu le genre de discours qu'on entend chez les témoins de Jéhovah contre Rome, etc., la Babylone, etc. Donc, chez les mormons, toutes les églises, sauf la leur, sont des églises déchues. Donc, le vrai christianisme ayant été révélé au monde en 1830, il est bien évident que d'abord tout le monde entier n'est pas encore devenu mormon, mais il est bien évident aussi que les ancêtres des mormons qui vivaient avant 1830 n'ont pas pu être mormons, n'ont pas pu avoir accès donc à ce que les mormons estiment être la vérité. Donc, ils estiment qu'ils peuvent les baptiser et les faire entrer dans l'Église de façon posthume. Et une fois qu'ils auront été baptisés, eh bien à ce moment-là, ils vont pouvoir vivre, encore une fois de façon posthume, tous les rituels que les mormons vivants vivent dans le temple. Donc le baptême des morts est en fait pour permettre à ses propres ancêtres de devenir mormons, et toujours pareil, de constituer autour de soi sa famille, afin qu'elle soit le plus grande possible et qu'on puisse accéder donc à la divinisation. Donc, comment on fait pour baptiser les morts ? Eh bien, il faut quand même avoir leur nom. Donc, évidemment, il faut savoir qui étaient ses ancêtres. C'est pas évident. Donc, c'est pour ça que les Mormons ont entrepris des fameuses recherches généalogiques. Et j'avais présenté justement un travail là-dessus cet été. Où justement, c'était dans un congrès qui portait sur religion et sphère publique. Quelle est l'interaction entre les religions et la sphère publique ? Et j'avais choisi de parler justement des recherches généalogiques, puisque quand on parle du mormonisme, etc., si on dit baptême des morts, bon, les gens quand même se demandent un petit peu ce que c'est. Mais si on dit recherche généalogique, ça plaît beaucoup, parce qu'en fait, si vous en faites vous-même ici, si ça se trouve, vous utilisez les logiciels qui ont été mis au point par les mormons, et si ça se trouve, vous utilisez leur propre base de données, puisqu'elles sont gratuitement offertes à tout le monde. Ils ont des centres de généalogie un petit peu partout, et ils surfent en fait, enfin je ne sais pas s'ils surfent sur la vague de la généalogie, je pense plutôt que c'est eux qui ont lancé la vague, la mode de la généalogie, ce qui s'explique aussi par le fait que nos sociétés, aussi bien ici qu'aux États-Unis, soient des sociétés de gens qui sont en permanence en mouvement. Donc bon, encore à Bordeaux, on est encore avec des racines, mais bon, si on regarde la France, les régions parisiennes, etc., les gens n'ont plus les racines ici, enfin ils viennent de partout dans le monde, et évidemment, on se met à ressembler de plus en plus à la société américaine. Or, ces gens-là aux États-Unis, les Américains, on a expliqué très souvent qu'ils étaient contents parce que c'était un peuple qui était hors de l'histoire. Alors ça, ce sont des belles paroles prononcées en général par les Européens qui veulent voir les Américains comme des espèces d'êtres un petit peu des Martiens. En fait, non, les Américains, oui, ils sont en dehors de l'histoire de l'Europe, mais en fait, ça leur pèse, ils aiment avoir des racines. Enfin, à Bordeaux 3, on a travaillé pendant 10 ans sur les littératures des immigrants. Et c'est des gens qui mourraient littéralement, psychologiquement, psychiquement, parce qu'ils n'avaient pas de racines. Donc, ils écrivent pour rechercher des racines. Donc, en faisant toutes ces recherches généalogiques, les Mormons permettent aux Américains, pardon, et à d'autres, d'avoir accès à leurs ancêtres. Et ils font un travail absolument phénoménal, titanesque. Ils scannent maintenant, autrefois c'était des microfilms, mais les registres d'état civil partout où ils peuvent aller dans le monde. Alors ils vont aussi scanner, enfin enregistrer tous les registres des bateaux, toutes les archives des bateaux, de tous les gens qui sont passés à Ellis Island, tous les Mexicains qui arrivent, etc. Et donc régulièrement on annonce sur les sites mormons, ça y est, maintenant nous avons les bases de données pour tous les Mexicains qui sont arrivés à telle époque, pour Ellis Island, etc., etc. Donc les Américains qui veulent savoir d'où ils viennent, alors soit ils se font faire les fameuses recherches d'ADN, soit ils vont chercher qui sont leurs ancêtres. Vous n'avez pas besoin d'être mormon pour avoir accès à ça. Mais et bien évidemment, l'idée des mormons, c'est qu'un jour, tout le monde, ça c'est le principe des religions prosélytes, un jour tout le monde sera mormon et aura besoin de baptiser tous les ancêtres. Et alors, ils deviennent évidemment très utiles parce que, par exemple, ils ont signé en France dans les années 50, 54, je crois, un accord avec le directeur des archives de France, donc l'État français, autorisant le microfilmage des registres d'État civil. gratuitement. En échange, ils donnent un microfilm. Donc, ça veut dire que l'État français ne peut pas avoir signé avec une secte, au sens français du terme, c'est-à-dire un groupe très méchant. Donc, on n'a jamais eu les Mormons, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dans les listes de la fameuse Millivude, comme étant une secte absolument horrible. Donc c'est très... C'est, si vous voulez, ce sont du donnant-donnant. On signe avec vous, mais dans ce cas, vous allez nous reconnaître comme, en fait, une association culturelle. Dans un premier temps, c'est déclaré association culturelle depuis assez peu. Mais ça va donc aider les gens, puisqu'après, on va le mettre au service de tout le monde. Alors, ce qui est intéressant aussi, quand je parlais de ça dans ce congrès, il y a un monsieur qui était du Japon et qui est venu me dire, mais vous savez, les chrétiens au Japon, maintenant, baptisent leurs morts. Et en fait, comme il y a de plus en plus de chrétiens au Japon, il y en a eu depuis assez longtemps, mais bon, c'était une infime partie des Japonais, mais maintenant, il y en a de plus en plus, et comme justement leurs ancêtres n'ont pas été chrétiens, puisque c'est récent, eh bien, ils font le baptême des morts. Mais c'est des chrétiens, des catholiques, des baptistes, ce n'est pas des mormons. Et donc, j'ai appris qu'ils faisaient ça pour justement leur conférer ensuite la même possibilité d'aller au paradis. Parce que s'ils étaient shinto, ils n'ont aucune chance d'aller au paradis, par exemple. Et donc, le baptême des morts, visiblement, n'est pas quelque chose qui serait réservé aux mormons.
Oui, c'est... Oui, enfin... Ce ne sont quand même pas des orthodoxes, là, ceux qui font baptiser
les morts.
Écoute,
c'est au Japon. Je n'ai pas lu le texte, mais, j'ai appris ça il y a un mois.
C'est intéressant. Alors, comme l'heure avant, c'est qu'on s'est imparti une heure assez proche. Qu'est-ce qu'on aborde les États-Unis. Alors, nous avions pensé parler aussi des mormons et les autres. Les mormons et les autres, c'est-à-dire les juifs. Les francs-maçons, les noirs, les indiens. Mais aussi, on avait prévu de parler des mormons archétypes de la société américaine.
Et ça me paraît
peut-être. Hein? Voilà, et ça me paraît peut-être pour terminer en une dizaine de minutes. Non?
Non. Oui, hein? Si je parle de tout ça, j'en ai. Oui,
alors, on va laisser les autres de côté.
D'accord.
En rappelant simplement, peut-être en une minute, que le maçonnisme est très présent dans le mormonisme, ainsi que le judaïsme.
Oui.
Et puis ensuite, la question sera finalement en quoi les mormons sont-ils l'archétype finalement des États-Unis? Est-ce que l'essence du mormonisme, c'est ce que tu écris? Il faudrait que je retrouve très très vite. Je veux aller vite, et plus on veut aller vite, plus on va doucement. Quand tu dis quelque part que le mormonisme, c'est 3C.
Oui.
Et à savoir...
Non, c'est les religions, voilà. Ça, c'est les 4C.
Voilà.
Et que c'est 4... Communauté. Credo, culte. Voilà, ils vont tous savoir par cœur.
Communauté.
Credo, culte, code, communauté.
Voilà. Et que ces 4 paramètres font du mormonisme...
Une véritable culture.
Voilà. C'est ça ma question. Voilà. Alors... Quelle est la relation avec la maçonnerie et les juifs? Première question.
Alors,
deuxième question, en quoi la société mormone de Salt Lake et de ses environs et de ses magnifiques villes est-elle l'archétype de la société américaine actuelle, en ce sens qu'elle a des valeurs qu'elle porte? Puis on conclura très vite sur Romney.
D'accord. Alors, rapport au judaïsme vient certainement d'une identité. À l'origine, ce sont des gens qui arrivent qui sont en Nouvelle-Angleterre, et la grande majorité d'entre eux sont originaires de Grande-Bretagne, hein, anglais, irlandais, etc., écossais. Il y a traditionnellement en Grande-Bretagne une grande fascination pour l'Ancien Testament et pour le peuple juif. Une identification d'énormément de Britanniques. Évidemment, si vous parlez à des Anglais de nos jours, ils vous regarderont avec des yeux comme ça. Mais ils ont historiquement et dans la symbolique, une identification du peuple anglais au peuple hébraïque, aux Hébreux. Il y a un livre d'ailleurs que je recommande qui s'appelle « La Bible et l'épée ». C'est pas traduit encore, j'espère pouvoir le faire publier. C'est de Barbara Tuchman qui analyse tout ça. Et ça remonte même à l'époque de Joseph d'Arimathie, etc. Donc, les gens qui sont en Nouvelle-Angleterre, ils ont hérité de ça. Les puritains qui sont arrivés en 1620 se voient comme les nouveaux Hébreux. Alors, ils ne se voient pas forcément comme des Hébreux biologiques, mais ils identifient leur traversée de l'Atlantique à la passage de la mer Rouge, par exemple, au passage de la dictature du roi, je vais aller dire une ânerie, ce n'est pas le roi Georges du tout en 1620, mais disons du souverain britannique catholique non, à l'époque, oui, ça, je ne sais plus, bref, en tout cas, qui n'est pas puritain, au pharaon. Et ensuite, ils traversent et la mer Rouge, l'Atlantique, etc. Et ils arrivent dans la terre de Canaan. Bien. Mais les puritains le voient de façon métaphorique. Hein. Ils ne sont pas au point de se voir comme les descendants biologiques des Hébreux. Chez les Mormons, ça devient biologique quasiment. Et c'est pas... Alors maintenant, évidemment, quand vous parlez avec des Mormons, ils le voient de façon métaphorique, mais pas dans les premiers temps. Ils se voient véritablement comme les descendants d'Abraham par la tribu d'Éphraïm et de Manassé. Et c'est écrit tout ça. Et donc, il y a eu toute une histoire de sang également. Ça va être le même sang. Et quand ils vont envoyer des missionnaires, l'idée, c'est de convertir des gens qui seront également ces tribus hébraïques qui sont répandues un petit peu partout dans le monde, en fait, à l'époque, surtout en Europe, et qui partagent le même sang. Et donc, la conversion va surtout être, en fait, pas tellement une conversion, mais on rencontre ses cousins et ses frères. Et donc, on doit les amener dans la communauté. Et comme le sang a été très dilué, évidemment, pendant des siècles, bon, on peut ensuite avoir ce qu'on appelle des greffes, la greffe de l'olivier, etc. Si quelqu'un est suffisamment convaincu de la véracité de ce que vont dire les missionnaires, à ce moment-là, on peut l'adopter, mais il va être adopté dans une tribu, également dans une tribu juive. Hein. Voilà. Donc ça, ça va être le lien au judaïsme, que je résume. Ensuite, le lien avec la franc-maçonnerie. Ça, c'est très important pour l'élaboration des rituels, qui sont des rituels très complexes, qui sont des rituels qui ne se font pas en public, qui se font exclusivement dans les temples mormons. Donc, il n'y en a pas encore en France. Il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a pas de temples. Et on ne peut faire ces rituels que dans le temple. Et les temples sont conçus, c'est des grandes architectures magnifiques de type... gothico-babylonien. Hein. Enfin, on sait tout de suite que c'est un temple mormon quand on les voit. On en voit beaucoup aux États-Unis. Ils sont souvent sur les autoroutes et tout ça. Mais à l'intérieur, ça fonctionne un peu comme des loges maçonniques. Hein. C'est des couloirs, des petites loges, des salons, etc. C'est pas du tout une grande nef comme dans une église ou une cathédrale. Et... bon, moi, j'interprète ça de façon très pragmatique, hein, un peu comme les Mormons. Le puritanisme, le protestantisme a évacué la ritualisation qui était très forte dans le catholicisme. La franc-maçonnerie naît quand même en Angleterre, Écosse, etc., où il y a quand même un puritanisme, un protestantisme très strict, et je pense qu'ils s'ennuient, les gens. Donc, quand on s'ennuie, eh bien, on va aller chercher des choses qui vont faire qu'on va pouvoir avoir des réunions où on va faire des choses tout à fait intéressantes, un peu secrètes, etc., ce qui va ajouter du piment. Donc, quand le mormonisme naît en Nouvelle-Angleterre, la religion majoritaire, c'est le puritanisme. Il y a quelques catholiques, mais ils ne sont pas très bien vus. Que va faire Joseph Smith ? Il crée une religion qui a emprunté des choses au puritanisme, mais il veut également être radicalement différent. Donc, vous n'avez pas du tout de rituel d'un côté. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va en ajouter énormément, il va en créer énormément. Quel modèle ? C'est pas évident d'inventer des rituels. Hein. Si vous avez essayé de créer une religion, ben vous verrez. Moi, j'essaie de dire à mes étudiantes de faire ça. Après, je les lance sur le marché comme professionnels de l'invention des religions. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, on n'invente pas de rituels. On va toujours prendre des petits trucs qu'on a vus ici et là. Donc, on va faire des mélanges. Mais c'est très difficile d'inventer quelque chose de radicalement nouveau. Ben, il a un modèle. Il y a beaucoup de francs-maçons à l'époque aux États-Unis. Les États-Unis ont été fondés par la franc-maçonnerie. Majorité des signataires de la déclaration d'indépendance à condition sont, je crois qu'ils étaient 55 sur 53, étaient des maçons avérés. Donc, eh bien, il va lui-même d'ailleurs devenir maçon. Son père, visiblement, était maçon. Donc, il va prendre ce qu'il a sous la main. Hein. Et dans un premier temps, d'ailleurs, il élabore des rituels qui sont purement évangéliques. Par exemple, on va laver les pieds des disciples. Donc, dans un premier temps, on lave les pieds et on fait beaucoup d'ablutions dans un tout premier temps. Et puis, quand il devient maçon, il rajoute énormément de choses qui sont effectivement des rituels maçonniques. Donc beaucoup, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis après, comme l'Église n'a pas trop voulu qu'on parle de ça, mais bon, il y a des mormons qui ont révélé ce qui se passait. L'Église a plus pu faire la, disons, semblant de plus savoir. Et donc, il y a eu, dans les années 70 et 80, on a beaucoup transformé les rituels, enfin, disons qu'on a simplifié les rituels pour qu'on puisse moins voir les origines maçonniques. Donc, il y a eu beaucoup de choses transformées. Il y a eu des grands changements dans les années 70, où effectivement, il y a eu une christocentrisation. On a beaucoup supprimé de références qui pouvaient être maçonniques. Et le baptême des morts, dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas du tout maçonnique. Là, c'est vraiment une création des mormons. Ça, c'est le lien avec la maçonnerie. Le temple de Salt Lake City, par exemple, a plein de pierres qui sont des pierres avec des symboliques maçonniques. Hein, c'est hindou, mais avec l'œil tout-puissant, enfin l'épée, pardon, je dis des âneries, l'équerre, etc. Il y a beaucoup de choses. Poignées de main, on trouve tout ça, mais qui sont justifiées comme étant dans l'Ancien Testament.
C'est très anglo-saxon. Le roi George III n'était-il pas maçon? Je me demande.
Oui, je suppose, sans doute. Si, parce que les anglicans étaient maçons. Oui. Mais pour être maçon en Angleterre, même de nos jours, il faut d'abord croire en Dieu. Et les anglicans étaient... Enfin, il fallait presque être anglican pour être maçon, à un moment donné. Oui, oui.
Et on passe le Channel, là, et l'Atlantique. Alors, pour terminer, puisque nous sommes à peu près au bout de notre... nous avons 17 heures, je crois que c'est le cas, enfin, pas tout à fait... vous vous en doutez, des foules de questions. Et vraiment, je vous conseille, je
ne suis pas là pour
faire la pub, mais de lire le livre. Parce que c'est une lecture facile, honnêtement.
Et très saine.
Ça, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça dépend de l'âme du lecteur. Bon, mais je dirais que, pour terminer, alors la puissance des Mormons aux États-Unis se pose évidemment de manière patente, puisque, moi je crois qu'Obama sera élu, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Romney a-t-il des chances? Comment situer les Mormons dans la vie politique américaine actuelle?
Alors, d'abord, moi, je ne fais aucun pronostic.
Non,
comme je dis
comme
en plaisantant, j'en ferai le 7 novembre, donc quand les élections seront passées. Mais c'est que la première étape des élections, le président n'est absolument pas élu le 6 novembre, il sera élu en décembre, hein, donc il peut toujours y avoir un suspense.
Mais ça, c'est vu qu'une fois au 19e.
Oui, mais on ne sait jamais. Mais enfin, bon, je ne fais pas de pronostic, mais simplement, effectivement, Romney n'est pas le premier, parce que les gens pensent que c'est la première fois qu'il y a un mormon qui est candidat, pas du tout. Les mormons sont dans la politique depuis le début. Joseph Smith a été candidat à l'élection présidentielle. Alors, il savait très bien qu'il n'avait aucune chance, mais c'était pour pouvoir se défendre et pouvoir exposer ses convictions. Ça, c'était avant qu'il soit... Mais il n'a pas été assassiné pour ça. Mais disons qu'il était candidat en 1844. Et ensuite, même quand ils étaient dans le lac Salé, ils ne sont jamais restés isolés très longtemps. Ils ont toujours été, justement, un poids électoral qui a été très courtisé par les politiciens de partout. Et donc, très tôt, ils ont envoyé des gens à Washington. Donc, il y a énormément de mormons qui sont en politique, qui sont dans toutes les sphères, disons, de la vie sociale américaine. Sous Eisenhower, d'ailleurs, il y a eu quelqu'un de très important qui est devenu ensuite président de l'Église. C'était le secrétaire à l'agriculture Merci. Ezra Taft Benson, qui ensuite est devenu prophète. Et sous Reagan, il y avait énormément de mormons dans les ministères. Il y en a plein, je donne une petite liste, mais il y en a énormément. Et les mormons, à un moment donné, ont voté démocrate, mais ça a été quand même assez rare. Ça a été pendant le New Deal un petit peu, et dans les années 60 un tout petit peu. Sinon, c'est un bloc républicain, ce qu'on appelle un bloc électoral républicain, avec quelques démocrates. D'ailleurs, le mormon le plus puissant, c'est absolument pas Romney tant qu'il n'est pas élu, mais c'est Harry Reid, qui a été le président du Sénat, et qui est démocrate, qui est un mormon démocrate. Donc évidemment, maintenant que le Sénat est républicain, il n'est plus président du Sénat, mais il est il ne pouvait pas être président, puisque le président, c'est le vice-président des États-Unis. Pardon, je dis une ânerie, mais chef de la... Speaker. Mais il est chef de la minorité démocrate, mais c'est une minorité majorité à 2 ou 3 sièges d'écart. Donc c'est lui, évidemment, le plus influent, et il est démocrate. Mais sinon, en général, ils sont républicains. Alors, pour en revenir au poids des mormons, ils sont d'abord un poids économique, ils représentent un poids économique énorme. Quand on étudie, parce qu'aux États-Unis, tout s'étudie sur les religions, quand on fait la moyenne du revenu des membres de dites telle et telle religion, le groupe le plus riche par revenu, ce sont les juifs, après ce sont les mormons et après les catholiques, ce qui est très intéressant puisque pendant très longtemps, selon la thèse de Weber, les catholiques étaient bons qu'à obéir au pape et au curé et donc ne pouvaient jamais faire d'argent, il n'y avait que les protestants qui en faisaient. En fait, les catholiques sont beaucoup plus riches que les protestants pris dans leur ensemble. Après, vous redécoupez protestants, évidemment ça change, mais les mormons sont excessivement riches individuellement. Donc, pour Romney, ça a été très bénéfique puisque ces gens-là, l'Église n'a jamais dit la moindre chose en faveur de Romney, mais les mormons eux-mêmes ont donné beaucoup d'argent à Romney. Hein. C'est un lobby excessivement puissant, normal, hein, qui a donné beaucoup d'argent. Donc, ils pèsent très lourd parce que ce sont des gens qui ont plein qui travaillent, les hôtels Marriott, ces mormons. Il y a plein de choses qui appartiennent à des mormons, qui ce sont des très bons gestionnaires. Ce sont des très bons Américains qui savent gérer un budget, etc., etc. Alors, quand on parlait tout à l'heure d'une espèce d'archétype, le premier qui a étudié les Mormons, qui n'était pas Mormon, qui s'appelait Thomas Audet, a fait un livre en 57. Et j'ai pu le rencontrer parce qu'il était professeur à Santa Barbara, où moi-même je suis allée en Californie, juste avant qu'il meure, puisqu'à ce moment-là, il était déjà très malade. Mais ce qui m'avait fasciné, qui me fascine toujours avec les Mormons, c'est justement cette espèce d'écho de la société américaine, de la culture américaine. Et lui-même les appelait, appelait le mormonisme l'Amérique en miniature, Miniature America. Et donc j'ai intitulé moi-même ma partie, évidemment en hommage à Audet, comme ça, ma dernière partie, parce qu'effectivement, c'est une espèce d'Amérique, mais l'Amérique idyllique, on va dire, peut-être des années 50-60. Pas trop une Amérique pluraliste. Si vous allez dans l'Utah, les gens sont quand même encore très blonds et de type anglo-saxon et scandinave. Il y a très peu de Noirs. Il y a une augmentation de 100% du nombre de Noirs, mais c'est parce qu'on est passé de 1 à 2, donc ça fait tout de suite 100%. J'exagère à peine. Il y a très peu de Mexicains. Il y a très peu de Mexicains, par exemple. Donc, c'est une ethnie, presque une ethnie spéciale. Vous allez dans l'Utah quand vous venez des autres États, et ça frappe. Mais, donc, c'est une espèce d'Amérique des années un petit peu 50, avec des valeurs, effectivement, très chrétiennes. Travail très dur, sexuel, contrôlée, je ne parle pas des polygames, mais qui sont une minorité. Donc, très nationaliste, très, très patriote, etc., etc. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est un côté, effectivement, Amérique de type Norman Rockwell, le fameux dessinateur, comme ça. Alors, Romney lui-même, il faut savoir, mais je suppose que beaucoup de gens ici le savent, qu'il était missionnaire à Bordeaux. Alors, on a lu tout un tas de choses comme quoi le fait d'être missionnaire l'avait préparé à être président. Oui, mais enfin, tous les mormons ne cherchent pas à être président. Et il y a eu beaucoup de présidents des États-Unis qui n'avaient pas été missionnaires mormons. Donc, l'argument ne tient pas. Et en plus, il a converti strictement personne. Quasiment personne, peut-être qu'il a converti. Parce qu'il était à Bordeaux dans les années 67-68. Et en France, les gens se convertissaient très peu au mormonisme en 67-68. Donc, il a dû convertir peut-être des gens ensuite, je ne sais plus. Il a organisé beaucoup de choses. Mais enfin, bon, ça n'a pas été un grand convertisseur. Il n'aime pas particulièrement la France. Il a eu un accident vers Bazas où quelqu'un qui avait bu lui a foncé dedans, donc a tué la dame qui était avec lui, qui était la femme du président de mission, l'a blessée. Et puis, je dois imaginer que dans les années 67-68, la France devait être quand même un joli bazar. Donc, ça n'est pas... c'est pas vraiment un... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il a changé d'avis, mais ce n'est pas un grand fan. Voilà.
Oui. Il a dû s'ennuyer aussi dans la banlieue bordelaise de ces années-là.
Comment ?
Il a dû s'ennuyer dans la banlieue bordelaise, voilà, qui était assez lugubre, elle était en construction.
Voilà.
Bien, nous allons remercier Bernadette Rigazzella. Je voulais simplement te remercier.
Oui, merci à vous, merci à toi.
Non, d'un livre qui est objectif, bienveillant.
Ah oui,
c'est un livre objectif, un livre bienveillant, un livre informé et un livre bien situé.